Bien. Donc, j'ai légèrement modifié le titre de mon exposé, et vous le trouvez sur l'exemplier. Verse in Li Xiong, beau, sublime et sentiment moral dans la critique de la faculté de juger autour de la méthodologie du goût, puisque c'est ce texte-là, le petit paragraphe 60, qui termine la critique de la faculté de juger esthétique, qui servira de fil conducteur à ma communication. Alors, je voudrais ici déployer un thème qui met en jeu la structure d'ensemble de la critique de la faculté de juger esthétique et ses rapports avec la deuxième critique, en tentant d'approfondir la façon dont Kant s'inscrit dans la problématique si féconde en son temps des rapports entre esthétique et moralité. Pour introduire ce thème, je commencerai par la fin, c'est-à-dire par les tout derniers mots de la critique de la faculté de juger esthétique. Je cite ici le texte un peu longuement. Puisque le goût est au fond un pouvoir d'appréciation de l'incarnation sensible des idées morales, grâce à une certaine analogie de la réflexion sur ces deux choses, et puisque c'est aussi de ce pouvoir, ainsi que de la plus grande réceptivité que celui-ci procure au sentiment dérivé de ses idées, qui se nomme le sentiment moral, que découle ce plaisir dont le goût proclame qu'il vaut pour l'humanité en général et non pas simplement pour quelques sentiments personnels propres à chacun, il apparaît clairement que la vraie propédeutique pour la fondation du goût est le développement des idées morales et la culture du sentiment moral. Car c'est uniquement si la sensibilité vient s'accorder avec ce dernier que le goût authentique peut recevoir une forme déterminée et immuable. Pour le lecteur attentif qui garde en mémoire les premiers paragraphes de cette première partie de la critique de la faculté de juger, il y a là une présentation pour le moins déconcertante. Ce lecteur attentif se souvient que la spécificité des jugements portant sur le beau y avait été en effet établie au fil conducteur d'une constante opposition à double front, d'un côté avec l'agréable, de l'autre avec le bien, que le titre du paragraphe 5 résume fortement, en évoquant trois sortes de satisfactions spécifiquement différentes. Cette indépendance de la problématique esthétique par rapport aux questions morales pourrait être confirmée symétriquement par l'introduction à la métaphysique des mœurs, qui, après avoir rappelé cette spécification fondamentale de nos affects, en plaisir pathologique, plaisir pratique, et ce que Kant appelle alors les plaisirs inactifs, et qui désigne justement les plaisirs de la contemplation, précise d'emblée que ces derniers, les plaisirs inactifs, ne concernent que marginalement une métaphysique des mœurs, et qu'il ne sera question du goût qu'épisodiquement dans la philosophie pratique, et non pas comme d'un concept propre. Cette problématique de la différenciation fondamentale de nos sentiments est un des motifs constants de la troisième critique, que l'introduction de l'analyse du sentiment du sublime ne fait que renforcer. Un des bénéfices importants de cette critique de la faculté de juger, esthétique, pour qui s'interrogerait sur la structure fondamentale de l'affectivité chez Kant, est l'établissement de ce qui pourrait valoir comme une véritable typologie des plaisirs, dont la longue réflexion sur les jugements réfléchissants vient confirmer le caractère exhaustif et systématique en rapportant chacun des affects fondamentaux à un moment de la table des jugements. L'agréable est rapporté à la quantité, le beau à la qualité, le sublime à la relation et le respect, sentiment moral, à la nécessité. Or, au moment de clore ce nouveau volet d'entreprise critique par une doctrine de la méthode, comme il l'a toujours fait dans les deux premiers opus, à l'image de ce qui a été accompli par les deux premières critiques, Kant abandonne son lecteur sur un paragraphe qui semble revenir en grande partie sur ce patient travail de différenciation et rabattre énigmatiquement la compréhension du beau sur celle du bien. Cette dépendance du jugement de goût à l'égard de la perspective morale est établie dans le texte qu'on vient de citer à trois niveaux, dont l'énumération vaut ici progression dans le degré de solidarité entre éthique et moralité. Premièrement, le texte affirme d'abord que la seule véritable méthodologie du goût, la seule vraie propédeutique à son exercice, consiste à cultiver en nous le sentiment moral. En d'autres termes, l'éducation esthétique de l'homme est d'abord une éducation morale. C'est là ce qui constitue l'essentiel de la méthodologie de la critique de la faculté de juger esthétique, qui se trouve du coup rabattue sur la méthodologie de la critique de la raison pratique. Deuxièmement, pour établir ce point, Kant va jusqu'à présenter le sentiment moral comme une condition de possibilité du goût lui-même, dans sa forme déterminée, et de la spécificité du plaisir qu'il délivre par rapport au sentiment qui n'ont qu'une validité privée, une Privatgültigkeit, comme a dit Kant auparavant. Troisièmement, mais en fait on voit bien qu'on remonte ici le texte, hein, Kant pousse ce rapport de dépendance jusqu'à une forme d'identification, puisque le goût n'est finalement rien d'autre, dit Kant, que le pouvoir d'appréciation de l'incarnation sensible des idées morales, de leur Versehnlichung, hein, de leur devenir sensible. Et la formulation adoptée, le « au fond », souligne la dimension fondamentale, principielle de ce qui semble se présenter ici comme la vérité ultime de l'éthique du goût, que l'auteur ne ferait que ressaisir dans son expression ramassée. Voilà, au fond, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est que le goût, c'est la sensibilisation des idées morales, devenir sensible. Le sentiment moral n'est donc pas seulement ce qu'il nous faut cultiver pour affermir et renforcer notre goût. Il est ce qui, en dernière instance, le rend possible, le beau n'étant finalement rien d'autre que la conceptualité morale rendue sensible à l'homme. Alors, on pourrait disqualifier l'importance que nous accordons à ce texte et tenter de résoudre les difficultés qu'il pose par une pirouette historisante qui consisterait à rapporter la problématique mise en jeu à une strate déjà ancienne et dépassée de la réflexion kantienne sur le goût, dont sa version ultime ne serait pas encore suffisamment épurée. Ou bien, on pourrait y voir une concession à l'ère du temps, à laquelle Kant ne parviendrait pas à résister jusqu'au bout au péril de la cohérence à penser. Hein, ça, c'est une stratégie qui a été adoptée par de nombreux commentateurs. Hein. C'est par exemple le cas de Robert Norton dans son livre qui s'appelle « The Beautiful Soul, Aesthetic Moralities in the 18th Century ». Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution spectaculaire que Paul Guyer, qui est sans doute le plus éminent commentateur anglo-saxon de Kant aujourd'hui, hein, a l'évolution qu'il a connue sur cette question, hein, entre les deux grands ouvrages qu'il a consacrés à la troisième critique. En 1979, dans Kant and the Claims of Taste, Guyer considérait l'ensemble des passages prenant pour objet ce rapport entre beauté et moralité comme de simples concessions au mode littéraire de l'époque, inessentielles par rapport à l'argumentation fondamentale de la critique de la faculté de juger, laquelle s'efforçait de justifier sur des bases épistémologiques, et donc sérieuses, la prétention à l'universalité élevée par tout jugement de goût. Au contraire, en 1993, dans Kant and the Experience of Freedom, il est tenté d'affirmer, je cite, que le cœur véritable de la théorie esthétique kantienne et la motivation qui sous-tend sa création est la connexion à sa théorie morale. Donc on voit cette évolution, mais on voit que toutes ces interprétations qui tendraient à minimiser la portée de ces textes, outre le fait que c'est toujours des interprétations très paresseuses, et qu'il faudrait encore expliquer pourquoi Kant a pu juger bon de laisser ainsi une scorie de ce genre dans son texte définitif, une telle présentation n'est pas un apax, hein, une unique occurrence sous sa plume. Nous en trouvons confirmation dans un passage célèbre de la lettre à Reichardt du 15 octobre 1790, que je cite en la retraduisant parce qu'elle est particulièrement mal traduite dans le volume de la correspondance de Kant. Je me suis contenté de montrer que, sans sentiment moral, il n'y aurait pour nous rien de beau ni de sublime, et que c'est sur ce sentiment que se fonde la prétention, pour ainsi dire, légitime à l'approbation dans tout ce qui doit porter ce nom. Que la part subjective de la moralité en notre être, qui sous le nom de sentiment moral ne peut être explorée, par conséquent qui ne consiste pas en des concepts objectifs de la raison comme ceux qui sont requis par le jugement d'après des lois morales, et ce en relation à quoi se tient le goût pour pouvoir juger. Celui-ci n'est donc aucunement la part accidentelle de la sensation, mais a pour fondement un principe a priori, quoi qu'il ne soit pas discursif mais intuitif. On voit hein, la force de l'expression, puisque d'une certaine façon, si l'on peut encore établir qu'il y a quelque chose qui relève de l'a priori dans le beau et dans le jugement de goût, c'est par sa relation au sentiment moral, qui est encore ici souligné comme étant condition de possibilité du sublime, ce qu'on accorde volontiers, mais du beau, ce qu'on accorde, on va le voir, beaucoup moins. Et on voit bien hein, qu'au moment de résumer à son correspondant l'apport essentiel de sa critique de la faculté de juger esthétique, hein, ce qu'il s'est contenté de montrer, voilà ce que je me suis contenté de montrer, dit Kant, Kant vient ainsi à souligner le rapport de dépendance étroit du beau et du sublime à l'égard du sentiment moral. Et si le plaisir pris au beau ne peut être réduit à la part accidentelle de la sensation, si on peut lui accorder cette dimension a priori, qui seule lui vaut, comme le dit Kant, de ne pas être enseveli hein, dans la masse des sentiments de l'agréable, c'est seulement parce que le jugement de goût se tient, comme il le dit, en relation au sentiment moral. Comment comprendre cette insistance à placer le rapport entre beauté et moralité au cœur de la problématique de la critique de la faculté de juger ? Le caractère relativement marginal des textes ici convoqués, une fantomatique méthodologie du goût, une lettre isolée, doit-il être considéré comme l'indice de la nécessité de ne pas surestimer leur portrait ? Ou faut-il au contraire donner tout leur poids à ces quelques indications ? Mais alors, comment surmonter les tensions qu'elle introduit dans le texte de la critique de la faculté de juger ? Hein, ce sont ces questions que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Ces difficultés sont encore renforcées par d'autres considérations qui font maintenant entrer en jeu le sentiment du sublime. L'importance fondamentale accordée à ce rapport de dépendance du beau à l'égard du sentiment moral n'entre en effet pas seulement en tension avec les paragraphes de l'analytique du beau, elle inquiète également la division structurante pour la critique de la faculté du jugé esthétique entre le beau et le sublime. Cette distinction est-elle aussi un des fils conducteurs de l'exposition du jugement esthétique portant sur ce dernier, sur le sublime? C'est à partir de sa différence avec le beau que le sublime est introduit au paragraphe 23 et elle demeure un motif dominant dans toute cette exposition. Et le texte qui nous intéresse ici, c'est le paragraphe 29, qui examine le jugement sur le sublime à partir du moment de la modalité. Ce paragraphe s'achève par un alinéa crucial qui rappelle que la nécessité, modalité commune à tous les jugements esthétiques réfléchissants, constitue le trait décisif, je cite, qui fait reconnaître précisément en eux un principe a priori et les soustrait à la psychologie empirique où sinon ils resteraient ensevelis sous les sentiments de plaisir et de douleur avec uniquement l'épithète selon laquelle il s'agirait d'un sentiment plus fin, ce qui ne veut rien dire. C'est elle donc, cette nécessité, qui autorise ce que Kant appelle leur déplacement vers la philosophie transcendantale. Mais le paragraphe a auparavant surtout insisté sur ce qui sépare le beau du sublime dans la façon dont cette nécessité est mise en œuvre pour chacun d'entre eux. Il faut souligner, dit Kant, cette seule différence que la première qualité, le goût, nous l'exigeons rigoureusement de chacun, puisque la faculté de juger se borne à y rapporter l'imagination à l'entendement comme pouvoir des concepts. Alors que la seconde qualité, le sentiment du sublime, dans la mesure où l'imagination s'y rapporte à la raison comme pouvoir des idées, nous ne l'exigeons que sous une condition subjective, que nous croyons toutefois légitimée à attendre de chacun, à savoir celle du sentiment moral présent en l'homme. L'un des principes de la différenciation entre le beau et le sublime réside donc dans le fait que le beau est immédiatement nécessaire, de façon inconditionnée, alors que si nous pouvons attribuer de la nécessité même au jugement portant sur le sublime, c'est sous la condition d'une disposition au sentiment moral, condition que nous pouvons cependant attendre et même exiger de tous. Ce détour nécessaire par le sentiment moral, désormais érigé en condition de possibilité du sentiment du sublime dans sa dimension transcendantale, est ici posé comme une marque spécifique de ce dernier, dans sa différence avec le beau. Le paragraphe 39, en s'interrogeant sur les divers modes de communicabilité d'un sentiment, rappellera cette dépendance du sublime à l'égard du sentiment moral. Je cite « Le plaisir pris au sublime de la nature, comme plaisir de la contemplation où l'on raisonne, prétend certes lui aussi à être partagé universellement, mais il suppose pourtant d'emblée un autre sentiment, qui est celui que le sujet a de sa propre destination suprasensible, lequel sentiment, si obscur qu'il puisse être, possède un fondement moral. » La prétention à être partagé universellement n'est pas moins assurée pour le sublime que pour le beau, puisque la condition à laquelle est suspendue notre sensibilité à la sublimité, c'est-à-dire notre disposition au sentiment moral, est elle-même une exigence nécessaire de la condition humaine. Il n'en reste pas moins que l'analyse du sublime ne doit pas escamoter le caractère conditionné de son épreuve, notamment parce qu'elle engage une nécessaire dimension de culture du sentiment, que la jouissance du beau ne présupposait pas au même degré. Je cite « Le jugement sur le sublime de la nature a besoin de culture davantage que le jugement sur le beau. » Ce qui est alors exigé est bien une culture de notre disposition à être affecté moralement, sous peine de ne ressentir par exemple que de la peur devant le spectacle de la puissance de la nature. Je cite « En fait, en l'absence de développement des idées éthiques, ce que, préparé par la culture, nous nommons sublime, apparaîtra simplement effrayant à l'homme inculte. Dans les témoignages de sa puissance que la nature fournit à travers ce qu'elle détruit, ainsi qu'à travers le degré immense de sa force par rapport à laquelle les siennes se réduisent à rien, il n'apercevra que les misères, le danger et la détresse où l'être humain se trouverait plongé s'il tombait sous cette emprise. » Et donc la condition pour que la peur soit métamorphosée en sublime, c'est justement que nous soyons cultivés moralement, que notre sentiment moral soit cultivé. Cette insensibilité au sublime est incarnée dans le texte par la figure de celui que Kant appelle le brave paysan savoyard, qui, au témoignage de M. de Saussure, un voyageur des Alpes, tient pour simplement fou l'amateur de glaciers qui s'en va volontairement se mesurer à la puissance de la montagne et ne comprend pas comment elle pourrait susciter des sensations qui élèvent l'âme, comme le dit Kant. Alors, il faut noter au passage qu'une telle insensibilité du brave paysan savoyard n'est pas sans poser problème dans le cadre de la philosophie kantienne. Que manque-t-il exactement au brave savoyard pour jouir du sublime? faudrait-il penser qu'il est déficient dans l'ordre de la disposition au sentiment moral ? On voit mal ce qui pourrait lui valoir un tel excès d'indignité. On sait bien que la fin de l'opuscule sur l'insuccès de toutes les tentatives de Théodicée évoque la triste expérience d'un autre voyageur alpestre, M. de Luc, qui, parti le cœur léger, cherchait dans les montagnes les plus reculées et les moins exposées à l'influence corruptrice des villes, la confirmation de la bonté originelle de notre espèce, s'en revint vacillant dans sa conviction et identifia dans un certain penchant à se tromper soi-même ce qui empêchait l'expression de notre bienveillance naturelle. Mais enfin, comme le fait remarquer Kant alors, il n'était pas besoin de partir dans les montagnes pour obtenir un tel résultat, et il n'y a là nulle spécificité morale du Savoyard, et qui a un sentiment moral comme tout le monde. Et d'ailleurs, comment concilier son éventuelle insensibilité morale avec la leçon que Kant dit avoir reçue d'un autre célèbre Savoyard, le vicaire de Rousseau, lequel, précisément, remit Kant dans le droit chemin sur la question de savoir si connaissance et culture pouvaient constituer des éléments de supériorité morale. Cette affirmation de la nécessité d'une forme de culture pour l'épreuve du sublime n'entre-t-elle pas d'ailleurs, par ailleurs, en contradiction avec la façon dont Kant, dans le paragraphe de la troisième critique qui la précède immédiatement, s'est justifié de l'objection selon laquelle le principe du sublime dynamique dépendrait d'un raisonnement trop subtil pour rester dans les limites du jugement esthétique. Kant en appelait alors justement à l'observation de l'homme du commun, et singulièrement au personnage philosophique traditionnel du sauvage, lequel, dit Kant, ressent tout particulièrement la sublimité qu'inspire par exemple la figure du guerrier. Pourquoi le sauvage aurait-il ici une quelconque supériorité sur notre brave paysan des Alpes ? Pourquoi l'un serait-il susceptible de s'ouvrir à l'épreuve du sublime et pas l'autre ? Enfin, il ne faut pas se tromper sur le rôle accordé par Kant à ce processus de culture. Le jugement sur le sublime a besoin de culture, mais cela ne signifie pas qu'il se fonde sur elle et qu'il devrait dès lors être compris comme un phénomène social. Je cite, « Ce n'est pas pour autant qu'il est produit originellement par la culture elle-même et qu'il se trouve introduit dans la société comme quelque chose de seulement conventionnel. Il se fonde bien sur la nature humaine et c'est pourquoi il peut valoir, y compris pour le sauvage. La culture ne fonde pas le sublime. Elle ne fait que favoriser son plein déploiement, intensifier notre sensibilité à son égard, développer ce qui n'était qu'en germe, multiplier les occasions de le ressentir. L'insensibilité du paysan savoyard ne peut en aucune manière être interprétée comme le signe d'une absence de tout sentiment moral susceptible de fonder sa réceptivité au sublime. Cela heurterait de front les principes les plus fondamentaux de la philosophie morale kantienne. Le processus de culture morale qui lui fait défaut ne peut donc consister à acquérir une disposition au sentiment moral dont il aurait été privé jusque-là. Le sentiment moral est bien ce que l'introduction à la doctrine de la vertu désigne comme une prénotion esthétique antérieure à toute détermination morale, toujours présupposée par elle, et qu'il serait parfaitement absurde de devoir acquérir. Comme l'a montré la méthodologie de la critique de la raison pratique, se cultiver moralement consiste seulement à cultiver le mieux possible l'effet de la raison sur la sensibilité. Tout homme est doué de sentiment moral, et le savoyard comme tout le monde. Mais nous ne pouvons pas faire la supposition que tout homme, comme le dit Kant, aura égard à, ou tiendra compte de, ce sentiment lorsqu'il sera confronté à la démesure ou à la sauvagerie de la nature. La culture éthique requise par le sublime consisterait à faire en sorte qu'en chaque occasion favorable, comme le dit Kant, on tienne compte de cette disposition morale, pour faire l'effort forcément inabouti, mais du même coup parfaitement adéquat, de faire de la nature un schème pour les idées éthiques. L'indifférence du Savoyard ne traduit pas son insensibilité morale, qui est sans nul doute mise en jeu par ailleurs dans son existence, mais seulement le fait que la contemplation des glaciers n'est pas saisie par lui comme une occasion d'éprouver la violence qu'exerce nécessairement la raison sur la sensibilité. Peut-être d'ailleurs parce qu'il a à subir la violence du glacier de façon beaucoup plus quotidienne dans son existence que celle de l'amateur des glaciers, ou peut-être aussi parce que la simple familiarité avec les glaciers ne suscite plus chez lui l'étonnement qu'il devrait ressentir dans le sublime. En tout cas, en marquant aussi pour le beau, revenons à ce qui nous intéressait après cette longue digression, en marquant aussi pour le beau une telle dépendance à l'égard du sentiment moral, en faisant entrer également le beau dans la problématique de la Versinnlichung des idées morales, en insistant aussi sur la nécessité d'une culture du sentiment, qui est d'abord culture du sentiment moral, la méthodologie du goût et la lettre à Reichardt n'annulent-elles pas un élément fondamental de la distinction entre le sublime et le beau. C'est donc à ces difficultés que j'ai choisi de consacrer mon intervention aujourd'hui en me penchant sur les relations complexes qu'entretiennent au sein de la critique de la faculté de juger tous ces sentiments qui ne sont pas ensevelis par la psychologie empirique dans la masse de nos plaisirs et douleurs pathologiques, mais qui ont pu être, d'une manière ou d'une autre, déplacés vers la philosophie transcendantale. Le sentiment du beau, le sentiment du sublime et le sentiment moral du respect. Alors pour bien faire, il aurait fallu que je revienne sur la première étape de la critique de la faculté de juger, c'est-à-dire sur le processus de différenciation du sentiment moral et du sentiment du beau. Je ne reviendrai pas, je suppose ça bien connu par tous, c'est sans doute ce qu'on connaît le plus de l'analytique du goût. Je voudrais juste indiquer que cela n'a pas seulement des effets pour établir la spécificité du sentiment du beau, mais qu'en retour, cela aide, en particulier dans le paragraphe 12 sur lequel j'attire l'attention des agrégatifs de cette analytique du goût, cela aide à préciser la spécificité du sentiment du respect, du sentiment moral, et précisément ce qui est a priori dans le sentiment moral. Je vous y renvoie, on a là un gain tout à fait appréciable par rapport à au troisième chapitre de l'analytique, de la critique de la raison pratique. Je laisse de côté ça. Alors, maintenant, revenons, au-delà de ce premier moment, au deuxième moment, qui consiste à justement cette introduction du sublime dans ce jeu qui, pour l'instant, a constitué à différencier le beau par rapport au respect. Kant souligne la communauté entre le beau et le sublime. En tant que jugement de la faculté de juger réfléchissante, la satisfaction éprouvée relativement au sublime, tout comme celle éprouvée relativement au beau, doit nécessairement être universellement valable selon la quantité, désintéressée selon la qualité, et elle doit rendre représentable selon la relation une finalité subjective, ainsi que selon la modalité, la rendre représentable comme nécessaire. Mais, comme on l'a dit, sur le fond de cette communauté affirmée entre les différents jugements esthétiques réfléchissants, le texte de l'analytique du sublime va bien sûr s'attacher à faire ressortir la spécificité du sublime par rapport à celle du beau. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que chacune des étapes de cette spécification du sublime par rapport au beau va consister d'une certaine manière à rapprocher le sublime du sentiment de respect, à marquer sa dépendance à l'égard de ce dernier, et à souligner à chaque fois ce qu'on pourrait appeler l'air de famille qui les unit. Et on pourrait distinguer trois degrés dans ce rapprochement. Premièrement, d'abord, le fait de repérer une parenté entre le sentiment du respect et le sentiment du sublime qui permet de les rapprocher en les apportant toujours au beau, notamment dans la façon dont ils se ressentent. Là où le beau ne fait que promouvoir nos forces vitales, le sublime passe toujours par la médiation d'un sentiment de douleur, est à la fois promotion et inhibition des forces vitales, inhibition suivie d'une promotion de ces mêmes forces vitales. Mais deuxièmement, il y a plus qu'un simple air de famille, puisque le sentiment moral, on l'a vu, je n'y reviens pas, est marqué comme étant condition de possibilité de l'épreuve du sublime. Mais, troisièmement, plus qu'une simple parenté, et plus peut-être qu'un simple rapport de dépendance, nous pouvons lire dans certains passages de la critique de la faculté de juger une quasi-identification, puisque le sublime y semble désigné comme une forme du respect. Le texte le plus décisif est à cet égard le paragraphe 27, qui s'ouvre sur une importante définition du respect qui en élargit la portée par rapport à la caractérisation qu'en avait donnée le troisième chapitre de l'analytique de la raison pure pratique. Je cite « Le sentiment de ce qu'a d'inadéquat notre pouvoir quand il s'agit d'atteindre une idée qui pour nous est une loi correspond au respect. » Et cet alinéa s'achève par une phrase saisissante qui semble faire du respect une espèce de ce dernier en l'identifiant, je cite, « au respect pour notre propre destination. » Je cite « Le sentiment du sublime dans la nature consiste en un respect pour notre propre destination, respect que par une certaine subreption, substitution d'un respect pour l'objet au respect pour l'idée d'humanité en nous comme sujet, nous témoignons à un objet de la nature qui nous rend en quelque sorte intuitionnable la supériorité de la destination rationnelle de nos pouvoirs de connaître sur le pouvoir le plus grand de la sensibilité. » Si on comprend bien cette phrase, ramené à son sens véritable, le sublime n'est rien d'autre que le sentiment de respect que nous éprouvons pour notre destination suprasensible, et donc en dernière instance pour la loi elle-même qui nous ouvre l'espace de cette destination. La spécificité du sublime est finalement réduite par ce texte à une simple illusion, une méprise, une simple subreption, celle par laquelle nous orientons notre respect vers la nature au lieu de l'idée d'humanité en nous. Le sentiment du sublime n'est donc pas seulement analogue au respect. Il n'en est pas non plus la simple condition de possibilité. Il en est d'une certaine façon la vérité, une fois qu'on a dépassé cette subreption, la seule réalité, la vie même. Il est le respect lui-même dès lors qu'on dissipe l'illusion dont il se nourrit. Et pourtant, cette subreption est justement ce qui suffit à en établir la spécificité. car on ne peut pousser jusqu'au bout l'identification avec le respect. Si le sublime nous présente négativement notre destination suprasensible, jusqu'à la rendre, comme le dit Kant, dans cette phrase étrange, quasiment intuitionnable, s'il doit toujours entretenir une relation, je cite, « avec des maximes recommandant de procurer à l'élément intellectuel et aux idées de la raison la domination sur la sensibilité », il ne correspond pas à l'expression sensible, notre détermination par la raison pure pratique, il ne correspond pas à la mobilisation effective de notre volonté, il n'est pas en un mot mobile de la raison pure pratique ce qu'est le respect. Il doit bien être considéré comme un sentiment inactif, comme le dit la métaphysique des mœurs, qui n'est pas immédiatement lié à la faculté de désirer. Et tout se passe comme si la subreption par laquelle nous projetons notre respect sur les objets de la nature le rendait contemplatif et accomplissait ce qu'on pourrait appeler sa démobilisation, c'est-à-dire le fait qu'il n'est plus immobile, qu'il est purement contemplatif. Mais on voit déjà la complexité de ces rapports entre beau, sublime et respect. Alors, on a opéré la distinction du beau par rapport au sublime, et on a vu qu'elle s'opérait par un rapprochement du sublime avec le respect. Mais du coup, nous voilà bien loin de notre point de départ. Qu'en est-il de la Versinnlichung ? Comment le beau pourrait-il, lui, être l'incarnation sensible des idées morales ? Le sublime, maintenant, d'une certaine façon, on le veut bien, mais le beau. Pour répondre à cette question, il nous faut entrer dans ce que vous savez être la problématique, dont on peut dire qu'elle constitue l'impulsion initiale et l'horizon ultime d'une critique de la faculté du jeu. Cette problématique, c'est la problématique du passage, Übergang, passage de la légalité de la nature à la législation de la liberté, mais qui est aussi un passage du sensible au suprasensible. Et le lecteur attentif, toujours lui, qui a bien lu les deux introductions, c'est l'agrégatif, c'est le lecteur le plus attentif, qui a bien lu les deux introductions, la critique de la faculté du juger, ne peut manquer en effet d'être désarçonné et peut-être un brin agacé par l'absence d'écho que rencontre dans les 40 premiers paragraphes cette problématique dont on a dit qu'elle était si essentielle. Bien au contraire, l'autonomie des jugements de goût, tant à l'égard de la connaissance déterminée du concept qu'à l'égard de tout intérêt pratique, et en particulier de l'intérêt moral, lui aura paru rendre inconcevable qu'il puisse permettre d'une manière ou d'une autre ce passage de la législation de nature à la législation de la liberté, de la philosophie théorique à la philosophie pratique, et rien ne vient encore indiquer comment le libre jeu de l'entendement et de l'imagination pourrait nous ouvrir un passage vers le suprasensible. Au contraire, il semble avoir interdit s'être coupé tous les ponts possibles en manifestant justement la spécificité du beau. À ce titre, seule l'analytique du sublime semble pouvoir entrer dans le cadre général de cette problématique comme présentation négative de l'imprésentable, présentation négative de notre destination suprasensible. Mais pourquoi, dès lors, n'est-elle pas davantage valorisée par Kant, qui ne la place pas en position de pièce maîtresse? Mais justement, précisément à partir de ce paragraphe 40 et de l'approfondissement qu'il amorce de la déduction des jugements de goût et de la notion de sensus communis qu'avait mis en jeu le paragraphe 22. Le texte de la critique de la faculté de juger esthétique, par-delà la multiplicité des objets abordés, et c'est vrai qu'il y a énormément d'objets qui vont être abordés, par-delà la multiplicité des perspectives adoptées et des moments d'une structure qui est quand même particulièrement difficile à cerner, c'est-à-dire la structure du texte depuis le paragraphe 40 jusqu'au paragraphe 60. Malgré la multiplicité de ces objets, de ces perspectives et de ces moments, le texte apparaît dominé par un motif essentiel qui en fait la ligne continue. De la réflexion sur l'intérêt qui peut être associé au beau, à celle portant sur le beau comme symbole du bien, en passant par l'analyse du génie, par la problématique des idées esthétiques et par la dialectique des jugements de goût, le texte est marqué constamment par l'insistance à réintroduire la raison dans le jeu du beau, à réinstaurer un lien entre celui-ci et la problématique morale, et à déployer la façon dont pourrait s'y accomplir la problématique du passage, c'est-à-dire, pour reprendre l'étrange et belle expression kantienne, dans le paragraphe 59, à montrer comment le beau, je cite, « tourne son regard vers l'intelligible ». Tourne son regard vers l'intelligible. Le texte de la méthodologie qui nous sert de fil directeur s'inscrira dans le prolongement de ce mouvement et en constituera d'une certaine manière la conclusion. Il nous faut souligner alors le rôle essentiel qu'a pu jouer l'analytique du sublime dans cette réorientation et cet approfondissement de l'analyse du sentiment du beau qui met en avant le rôle de la raison et de la liaison au sentiment moral. Hein, c'est ça, c'est là l'hypothèse qui avait été défendue avec force par Louis Guillermite hein, dans son grand ouvrage, hein, dont je dis aux agréatifs là aussi, qu'il est l'un des tout meilleurs jamais consacrés à la faculté de juger, à la critique de la faculté de juger esthétique, et dont chaque relecture ne fait que faire davantage regretter qu'il n'ait pu être achevé. Ce livre, c'est « L'élucidation critique du jugement de goût selon Kant ». Il est inachevé, mais c'est le meilleur livre en français, à mon sens, sur la critique de la faculté de juger esthétique. Et je souligne aussi la très grande qualité de la traduction qui en est donnée, et qui est, à mon avis, la meilleure traduction française de ce texte qui est donnée en appendice. Et justement, dans ce texte, Guy Hermite affirme, je cite, « l'hypothèse de la valeur heuristique qu'avait pu prendre la référence à la raison imposée par l'analyse du sublime, et qui a permis justement d'ouvrir, en un sens, de libérer des possibilités pour la réflexion sur le beau, dont ne pouvait encore se saisir la seule analytique du goût. » En un sens, c'est le détour par le sublime qui, en nous mettant en relation avec la raison et avec la problématique morale, pouvait libérer, en un sens, ce que n'avait pas encore pu libérer comme possibilité l'analytique du goût. La première étape de ce mouvement est la réflexion que consacre le paragraphe 42 à l'intérêt intellectuel associé au beau. Cette réflexion met en son cœur la relation du sentiment du beau et du sentiment moral. Il ne s'agit évidemment pas de revenir sur ce que l'analytique du goût avait patiemment distingué, et de rabattre le sentiment du beau sur le sentiment moral. Le sentiment esthétique est bien toujours fondamentalement désintéressé. Le texte du paragraphe commence même par poser ce garde-fou contre toutes mes interprétations. Le sentiment du beau est spécifiquement différent du sentiment moral. Et tout intérêt qui pourrait lui être associé n'est pas nécessairement moral. C'est ce que montre par exemple l'intérêt empirique que le paragraphe 41 développe et qui est lié à la sociabilité. Il ne propose qu'un passage fort équivoque entre l'agréable et le bien, car si nous avons un intérêt à communiquer même ce sentiment à autrui, du fait de notre inclination à la sociabilité, cet intérêt peut être lié à toutes les passions qui atteignent leur plus haut degré d'intensité et de raffinement dans la société, et ne manifester que notre vanité à l'image de tous ces virtuoses du goût qui sont, c'est bien connu, livrés à tous les vices. Mais à la condition qu'il soit éprouvé devant les productions de la nature, le sentiment du beau est susceptible d'éveiller un intérêt intellectuel qui repose sur ce que Kant appelle une véritable parenté, Verwandtschaft, une affinité, Affinität, entre le sentiment du beau et le sentiment moral. La reconnaissance de cette parenté n'invalide pas du tout ce qui a été établi quant à l'autonomie du beau. L'affinité ne vaut pas identification et suppose précisément la distinction des termes entre lesquels elle s'établit. C'est dans son irréductible spécificité que le sentiment du beau peut se lier et faire écho au sentiment moral. En quoi consiste cette parenté ? Le moment décisif du paragraphe commence par esquisser un parallèle entre ces deux sentiments. Ce que, nous le verrons, le paragraphe 59 déploiera plus systématiquement comme une analogie. Dans les deux cas, nous avons affaire à une satisfaction qui ne se fonde sur aucun intérêt, mais qui renvoie à chaque fois à une forme d'universalité, qu'on exige de chacun, dans un cas, le beau comme une règle, dans l'autre, le sentiment moral comme une loi. Mais tout en établissant ce parallèle, Kant prend bien soin de souligner leurs différences essentielles. Dans le cas du sentiment moral, si le jugement ne se fonde pas sur un sentiment, il en produit un. Or, c'est précisément sur cet intérêt moral que se fonde l'intérêt intellectuel attaché au beau. D'une certaine manière, l'intérêt moral dont Kant nous a dit ailleurs qu'il était le plus puissant qui soit, nous intéresse aussi indirectement à tout ce qui pourra entrer en écho avec lui. L'affinité entre les deux sentiments suffit à faire comprendre comment l'intérêt produit par l'un pourra venir d'une certaine manière s'associer à l'autre, mais leur différence maintenue permet d'expliquer comment cette liaison à l'intérêt n'équivaut pas à une contamination du désintéressement propre au beau par un intérêt subrectice qui viendrait en annuler la spécificité. Le jugement sur le beau ne produit pas d'intérêt. Le jugement moral produit un intérêt moral et un intérêt intellectuel pour le beau. Il y a là un intérêt pris au désintéressement lui-même. Le sentiment du beau n'en est pas le moins du monde altéré, c'est un second sentiment qui vient se lier à lui. Il s'agit bien, dit Kant, je cite, « de relier à la satisfaction de la simple réflexion sur un objet le plaisir pris à son existence, et le plaisir pris à son existence, c'est justement ce qui définit en propre la notion d'intérêt. Ou encore, je cite, « de penser à un intérêt concernant ce qui a déjà un plaisir par lui-même, et sans que soit considéré alors un quelconque intérêt. » C'est pourquoi cet intérêt ne pourra être qu'indirect et devra reposer sur un troisième terme, par lequel est rendu possible cette association, précisément le sentiment moral, qui ne doit donc pas seulement être posé comme apparenté au sentiment du beau, mais qui est aussi, de ce fait, condition de possibilité de l'intérêt intellectuel, qui vient s'y lier. C'est bien en vertu de l'exigence morale, que nous sommes susceptibles de prendre intérêt à certaines manifestations de la beauté. Celui qui prend un tel intérêt au beau de la nature ne peut le faire que dans la mesure où, auparavant, il a déjà été établi sur des bases solides son intérêt pour le bien moral. Cet intérêt immédiat pour le beau dans la nature, dit Kant, n'appartient qu'à ceux dont le mode de pensée soit est déjà formé au bien, soit fait preuve d'une réceptivité particulière à une telle formation. On voit ici ressurgir la problématique de l'éducation, de la dépendance de l'esthétique envers une éducation morale, alors même que ce point avait permis de penser la différence avec le sublime. Mais cette différence n'est bien sûr pas annulée ici. Ce n'est pas l'épreuve du beau lui-même qui réclame cette formation morale, mais l'épreuve de cet autre sentiment qui vient se lier à lui, quel intérêt immédiat que nous avons pour le beau naturel. Et seul celui qui a reçu cette formation morale peut rapporter le sentiment du libre jeu de ses facultés à cette nouvelle perspective qui va lui dévoiler dans la nature autre chose que la pure nature, quelque chose qui peut être lu, à un déchiffrement qui la renvoie à son substrat sensible et à notre propre destination suprasensible. Mais l'effectivité du sentiment moral n'est pas la seule condition de possibilité de l'intérêt intellectuel pris au beau. Il se fonde également sur la pensée que la nature est bien à l'origine de la beauté qui suscite notre satisfaction désintéressée. Je vous laisse lire le texte suivant. Il s'agit bien de réfléchir sur la beauté de la nature, et nous sommes alors plongés dans une satisfaction qui est aussi méditation, ce qui lui vaut d'être caractérisé comme volupté spirituelle par Kant. Cette méditation se présente comme une succession de pensées impossibles à jamais développer complètement, dit Kant, qui ne viennent jamais se figer dans la figure déterminée du concept, comme ce sera le cas pour les idées esthétiques dans le cadre des productions de l'art. En quoi donc consiste cet intérêt intellectuel, pour résumer ? Il repose précisément sur la nécessité qui nous impose de penser un passage entre la législation de la liberté et la législation de la nature. Et c'est pourquoi les œuvres de l'art ne sont pas ici concernées. Je cite. « Dans la mesure toutefois où la raison est aussi intéressée à ce que les idées pour lesquelles elle produit dans le sentiment moral un intérêt immédiat possèdent également une réalité objective, c'est-à-dire à ce que la nature montre du moins une trace ou donne un indice qu'elle contient en soi quelques principes conduisant à supposer un accord obéissant à une loi entre ces produits et notre satisfaction indépendante de tout intérêt, laquelle satisfaction nous reconnaissons a priori comme constituant pour chacun une loi sans pouvoir fonder cette reconnaissance sur des preuves, la raison doit nécessairement porter un intérêt à toute expression d'un tel accord par nature. Par conséquent, l'esprit ne peut réfléchir sur la beauté de la nature sans s'y trouver en même temps intéressé. La raison exige la réalité objective de ses propres idées et du fait de l'intérêt moral qu'elle produit elle-même, prend un intérêt à tout ce qui pourra manifester la possibilité d'une telle réalisation. Elle ne pourra donc que se réjouir de toute trace, de tout signe, de tout indice qui témoignerait de la possibilité de l'accord entre les produits de la nature et l'exigence morale, c'est-à-dire de la possibilité de l'inscription effective de cette exigence morale dans le monde, dans le cours du monde, lequel n'apparaît plus comme fondamentalement étranger aux fins ultimes de l'humanité. Et c'est ici qu'intervient la parenté entre sentiment moral et sentiment du beau. Que la nature présente des formes susceptibles de produire en nous un sentiment immédiat, qui ne se fonde sur aucun intérêt, et qui prétend cependant a priori à une forme d'universalité et de nécessité, constitue un indice de son accord possible à l'exigence rationnelle, dans la mesure où les qualités du sentiment ici décrites sont précisément celles qui font son affinité au sentiment produit par la détermination rationnelle, notre volonté. L'épreuve du beau dans la nature semble ainsi constituer la promesse d'une ouverture possible de la nature à ce qui en nous dépasse toute nature. Le monde se donne alors comme un univers de signes. La nature n'est plus seulement cet autre qui nous fait face et dans lequel nous ne nous reconnaîtrions pas. Elle paraît désormais, dit Kant, s'adresser à nous en ses belles formes, en une langue qui la rapproche de nous, tout en lui accordant une signification supérieure. Nul besoin, pour cela, d'un détour par Dieu. Il ne s'agit en aucune manière d'une version esthétique de la preuve physico-téléologique qui verrait dans la beauté l'indice de l'existence d'un grand artiste qui aurait configuré le monde à notre attention. Tout repose ici seulement sur l'affinité des sentiments, sentiments du beau et sentiments moraux. Alors pour bien faire, pour étudier ce mouvement, il nous aurait fallu évoquer le texte passionnant de la dialectique du jugement de goût, et passionnant notamment par les tensions qu'il introduit avec l'analytique du goût, texte qui va réintroduire la raison dans l'ensemble des facultés mises en jeu par le jugement de goût, et qui va elle aussi contribuer à nous forcer, à propos du beau, à regarder, et c'est la deuxième occurrence de cette expression chez Kant, à regarder au-delà du sensible. Mais bon, on n'a pas le temps de le faire, et on passe à la dernière étape. Bien connue elle aussi, le paragraphe 59 de la critique de la faculté de juger, où le beau est présenté comme symbole de la moralité, et qui s'inscrit dans le prolongement de la réflexion déployée par le paragraphe 42. En quoi le beau peut-il dès lors être considéré comme le symbole du bien? Qu'est-ce qu'un symbole? Je vais rapidement, c'est bien connu. C'est une présentation indirecte, par opposition à la Darstellung directe, à la présentation directe qu'est le schématisme, ou encore, on peut établir une distinction au sein du schématisme, entre le schématisme direct et celui que Kant appelle dans une note de la religion, le schématisme de l'analogie. Qu'est-ce qu'une analogie? On en trouve la définition, paragraphe 58 des Prolégomènes. L'analogie ne signifie pas, comme on l'entend communément, une ressemblance imparfaite entre deux choses, mais une ressemblance complète de deux rapports entre des choses tout à fait dissemblables. On voit qu'il n'y a précisément pas d'assimilation entre les deux, hein, ils ont deux choses tout à fait dissemblables. C'est aussi défini comme le transfert de la règle de la réflexion sur un objet de l'intuition à un tout autre concept auquel peut-être une intuition ne saurait jamais correspondre. Alors, quelle ressemblance parfaite peut-on ici établir entre ces deux choses aussi dissemblables? Eh bien, c'est encore une ressemblance qui s'établit au niveau des sentiments. D'un côté, elle commence à être spécifiée par deux éléments. Le rapport aux autres subjectivités dont je prétends qu'elles doivent partager mon sentiment. Et d'autre part, le rapport au suprasensible vers lequel regarde le beau, dans la mesure où il se détache de la simple jouissance des sens. Mais cela est d'emblée précisé et systématisé par Kant en quatre points fondamentaux qui font justement cette ressemblance parfaite entre les deux sentiments. Premièrement, immédiateté du sentiment. Deuxièmement, désintéressement. Troisièmement, liberté en accord avec une légalité. Quatrièmement, universalité. Ce sont ces quatre éléments qui sont communs au sentiment du beau comme au sentiment moral, même s'ils s'incarnent à chaque fois dans des modalités différentes de l'immédiateté, de la légalité, de l'intérêt, du désintéressement et de l'universalité. Or, ce système de correspondance, je vais un peu vite, s'inscrit au cœur de la problématique du passage, si essentielle au projet même de la troisième critique. Arrivé au terme de sa partie esthétique, le beau se révèle être un de ces éléments qui, au cœur du sensible, tournent leur regard vers l'intelligible. Il peut être considéré comme le sublime, comme une forme de présentation de l'imprésentable. Mais à la différence du sublime, cette présentation n'est pas négative. Elle est seulement indirecte, analogique. Et elle doit précisément le rester, ne pas chercher à se faire présentation directe sous peine de ne plus rien présenter. Il nous faut maintenir la différence des termes. Et le beau ne doit pas chercher à singer le bien, à s'y assimiler, à vouloir s'y identifier. Il n'y aurait plus alors justement la rigueur d'une analogie, qui est justement la ressemblance parfaite entre des choses dissemblables, mais le flou d'une similitude imparfaite qui ne montrerait plus rien. Comme le dit Jean Beaufret dans son article classique sur Kant et la notion de Darstellung, la beauté est d'autant plus symbolique de la moralité qu'elle est davantage beauté et non moralité. La différence doit être strictement maintenue si l'on veut que l'effet d'analogie ne soit pas perdu. Et on voit comment ce paragraphe est une des pièces maîtresses dans cette problématique du passage telle qu'elle est mise en jeu dans la troisième critique. Elle surgit explicitement à deux niveaux dans le texte. En un premier moment, après avoir rapporté l'autonomie de la faculté de juger dans le goût et à l'autonomie de la raison dans la détermination morale, Kant retrouve des formulations proches de celles du paragraphe 42. Aussi bien, du fait de cette possibilité interne inscrite dans le sujet que du fait de la possibilité externe d'une nature s'accordant avec celle-ci, la faculté de juger se voit rapportée à quelque chose, dans le sujet lui-même et en dehors de lui, qui n'est ni nature ni liberté, mais qui est lié au fondement de ces dernières, à savoir le suprasensible, en lequel le pouvoir théorique s'allie en une unité avec le pouvoir pratique, d'une manière commune à tous et inconnue. On voit les différentes dimensions de ce passage, passage de la nature à la liberté, même si ce qui est visé, c'est qu'il n'y a ni nature ni liberté, passage du sensible au suprasensible, passage du pouvoir théorique au pouvoir pratique. Je passe un petit peu. Ce passage entre législation de nature et législation morale, entre sensible et suprasensible, s'effectue aussi, et c'est un point essentiel à noter, non pas seulement avec le sentiment du beau, mais comme transition entre les sentiments eux-mêmes. Et si je puis dire, le passage se fait amène le sentiment. Je cite. Le goût rend en quelque sorte possible le passage de la très sensible à l'intérêt moral habituel. Cela sans un saut trop brutal, dans la mesure où il représente l'imagination, même dans sa liberté, comme susceptible d'être déterminée selon une dimension de finalité pour l'entendement, et enseigne à trouver, jusque dans les objets des sens dépourvus d'être sensibles, une libre satisfaction. On retrouve ici un point qui avait déjà été fugitivement entrevu lors de la réflexion sur l'intérêt lié au beau, paragraphe 41, lorsqu'il avait été établi que l'intérêt empirique à lui seul n'était d'aucune importance pour la ligne directrice de la troisième critique. Il nous fallait découvrir un intérêt a priori, fût-il indirect, disait Kant, car le goût révélerait alors un passage pour notre pouvoir de juger de la jouissance des sens au sentiment moral. Et non seulement nous serions ainsi mieux guidés pour utiliser notre goût d'une manière conforme à sa fin, mais en outre se dévoilerait par là un maillon intermédiaire dans la chaîne des pouvoirs humains a priori, desquels toute législation doit dépendre. Nous découvrons alors le véritable sens de la position médiane du sentiment du beau tel qu'il est par exemple évoqué dans le paragraphe 5, entre l'agréable et le sentiment du bien. Elle est bien celle d'un moyen terme. Mais il n'y a pas là simple juxtaposition statique, mais au contraire la possibilité d'un mouvement, d'une dynamique, qui permet le passage de l'une à l'autre de ces déterminations du sentiment, depuis celle qui relève du mécanisme de la nature en nous, jusqu'à celle qui est produite par l'arraisonnement de notre sensibilité par la loi morale. C'est donc plus seulement la réflexion sur les formes belles de la nature qui permet le passage recherché. Il s'agit désormais d'un passage interne au sentiment lui-même, entre ces différentes formes, et c'est le sentiment du beau qui devient un lieu d'un tel passage. Au cœur même de ce qui en nous relève de la nature, à savoir la sensibilité, le beau nous détache du mécanisme naturel des impressions sensibles et introduit comme un écho de ce que la loi doit produire en nous, le sentiment moral. La libre satisfaction du beau libère notre sensibilité et favorise ainsi notre réceptivité au sentiment du respect. Et c'est pourquoi le texte de la méthodologie du goût par lequel nous avons commencé rappelle que le goût augmente notre réceptivité au sentiment moral. Je n'ai pas le temps de revenir, comme j'aurais voulu le faire, sur l'ensemble de la méthodologie. Le paragraphe 60, et en particulier sur le paragraphe très intéressant qui met en jeu une réflexion d'ordre politique. Mais le dernier moment de cette méthodologie, par lequel on avait commencé, rabat donc la méthodologie du goût sur la culture du sentiment moral et désigne, on l'a dit, la doctrine et la méthode de la raison puratique pure comme étant la seule véritable méthodologie. Il n'y a pas de méthodologie pour le goût, il n'y a qu'une manière, à commencer par dire Kant. Quant à commencer par dire « il n'y a pas de méthodologie pour le goût », il n'y a jamais qu'une manière qui se donne à étudier par des exemples. Il a ensuite montré comment, néanmoins, était nécessaire une référence à une certaine forme d'idéal esthétique qui était représentée pour des raisons politiques par les classiques de l'Antiquité. Et enfin, dans un troisième moment, il nous dit que s'il n'y a pas de méthodologie du goût, il y a une méthodologie morale qui doit servir en un sens et tenir lieu de méthodologie du goût. Le sentiment on ne dépasse pas ici, on ne va pas plus loin que la perspective qui a été celle des paragraphes 42 à 59. Il ne faut pas se méprendre sur le sens de la Versinichung. Il n'y a pas présentation directe, mais toujours explicitement dans le registre de l'analogie, et Kant le reprécise ici entre parenthèses dans le texte, grâce à une certaine analogie de la réflexion. Présentation, analogie. Le beau n'est pas le bien incarné dans le sensible, mais il y a une réflexion sur le beau qui est analogue à celle sur le bien, en cela qu'elle produit des sentiments qui ont des traits communs. Le sentiment du beau favorise certes la réceptivité au sentiment moral, mais ce n'est pas cette dimension qui est première, et c'est un point qu'il faut retenir aussi de cette méthodologie. Il ne faut pas cultiver le goût pour nous former à la moralité, mais cultiver la moralité pour former notre goût. Même si cela aura des effets en retour, cela favorisera la réceptivité au sentiment moral, mais seulement, justement, en retour. Alors pour terminer, je voulais terminer en citant ce passage de la première introduction dans le paragraphe 11. Je ne la lis pas, vous l'avez sur l'exemplier. La critique du goût, qui ne sert d'ordinaire qu'à l'amélioration ou à l'affirmation du goût lui-même, justement, la critique du goût kantienne ne sert en rien à améliorer ou à affirmer le goût lui-même. Précisément sur ce point, elle demeure muette, en niant qu'il puisse y avoir une méthodologie du goût qui puisse se déduire du travail opéré par la critique. Donc, elle n'a rien à voir avec l'ordinaire des critiques du goût. Mais nous l'avons vu, elle offre bien, comme le dit la citation, cette perspective frappante sur le système complet de nos facultés, pour autant qu'elles sont rapportées aux suprasensibles. Et je voudrais insister, pour terminer sur ce dernier point, sur le rôle fondamental accordé aux sentiments dans la problématique du passage, qui lui confère quelque chose comme une signification métaphysique. On ne peut certes pas philosopher par sentiment chez Kant. Ce serait ici la figure du Schwärmer, celle de Jacobi, celui qui philosophe par sentiment. Il n'y a pas de révélation directe du suprasensible par-delà les formes de la discursivité. Mais néanmoins, il y a un passage possible, une présentation possible du suprasensible, mais toujours de façon fragile, négative, indirecte ou analogique. Présentation sensible du suprasensible, non pas dans l'expérience, non pas en liaison avec la dimension cognitive de notre sensibilité, mais sur l'autre face de notre sensibilité de sentiment, le Gefühl, à travers ces sentiments du sublime et du beau si particuliers. Mais ils ne possèdent cette signification que par leur liaison avec le sentiment moral, qui demeure la clé de voûte de la théorie kantienne de l'affectivité dans sa dimension transcendantale, l'orient sur lequel doit se régler toute tentative de passage vers le suprasensible. C'est le système de relations qui unit ces différents sentiments, beau, respect, sublime, qui permet de penser, cette modalité-là au moins, du passage lui-même. Mais encore une fois, ce passage advient toujours depuis l'exigence morale elle-même. Il y a une insistante constante de Kant sur ce point. Le sublime d'un côté, l'intérêt intellectuel et la signification analogique qu'on peut accorder au beau de l'autre sont suspendus à l'épreuve du sentiment moral et à la culture qui peut en être faite. C'est le sens de l'ultime paragraphe de la critique de la faculté esthétique. La méthodologie du goût n'est rien d'autre que la méthodologie morale. Elle seule peut donner une forme déterminée au goût et justifier que sa nécessité puisse valoir gleichsam als Pflicht, presque comme un devoir. Le sens de cette reconduction de la méthodologie du goût à celle de la seconde critique est qu'il n'y a pas d'éducation esthétique à la moralité, mais il y a une éducation morale à l'esthétique. Si la méthodologie de la raison pratique pouvait se référer incidemment à la lecture des romans, c'est toujours seulement comme source possible d'exemples moraux et toujours en soulignant les dangers qui pouvaient lui être associés. Mais le passage se fait toujours depuis la moralité, depuis l'exigence morale, qui recherche dans le sensible des signes de sa possible effectivité. Mais ne doit pas être comprise comme continuité depuis le sensible qui nous élèverait naturellement et sans heurts jusqu'à la perspective morale. Il y a toujours un primat de l'intérêt moral qui s'impose toujours d'abord et qui s'impose en faisant toujours violence au sensible. Et pour terminer, je voulais indiquer que Schiller, dans son exemplaire personnel de la critique de la faculté de juger, souligne abondamment précisément le texte par lequel nous avons commencé, ce texte de la méthodologie du goût. Et il serait évidemment passionnant de confronter ce qui dit ici du rapport entre esthétique, moralité et éducation, formation, avec la perspective qui sera celle de l'auteur des lettres sur l'éducation esthétique de l'homme. Je vous remercie. Merci. Désolé d'avoir été un peu long.